Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Louis de Funès est l'un des comiques français parmi les plus connus et les plus aimés. Acteur dans plus de 140 films et dans un très grand nombre de pièces de théâtre et de comédies chantées, De Funès porte jusqu'aux extrêmes toutes ses interventions scéniques avec une force éblouissante. Pour un artiste, être en scène relève aussi de l'exploit physique, et si De Funès est un des rois du comique international, c'est parce qu'il est avant tout une énergie à l'état pur. En 1962, le grand Georges Lourier animait le dimanche matin, pour la radio-télévision française, une émission intitulée « Le disque des vedettes ». Vous comprendrez rapidement à l'écoute de l'émission la raison de ce titre. C'est ainsi qu'en janvier 1963, la vedette invitée avait été Louis de Funès.
Le disque des vedettes. Voici en effet le disque des vedettes, une émission de Georges Lourier réalisée avec la collaboration de François Liénas et la participation épistolaire de tous les auditeurs ayant quelque chose à dire ou à demander à leur vedette préférée. Et cette vedette aujourd'hui se nomme...
Louis de Funès.
Louis de Funès, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans cette émission, car le dimanche matin est le moment du sourire par excellence, et vous êtes un homme souriant par excellence également. Je dois dire que nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant l'occasion souvent de recevoir des personnages comiques dans cette série d'émissions, et que c'est une grande joie que vous nous faites. Vous savez que depuis quelques semaines, nous lançons des appels sur les ondes en signalant que c'est vous qui répondrez sur l'antenne au cours de ce mois de janvier. Et je dois dire que le courrier reçu est très important et très intéressant, comme vous allez pouvoir en juger dans un instant. C'est l'air de la grosse valse.
Ah oui, je vais rejoindre à 3h tout à l'heure.
C'est l'air qui vous
que
définit.
J'ai quitté hier soir à minuit.
C'est l'air qui vous définit. C'est
oui.
L'air qui vous définit tout au moins en ce moment. Oui. Et pour vous définir un peu mieux, j'aimerais que, avant d'attaquer la première lettre, comme on dit, j'aimerais regarder de manière un peu indiscrète votre carte d'identité.
Oui, de Funès. Oui.
Alors, nom, c'est bien de Funès.
De Funès, de Galarza.
De Galarza.
Oui, je suis d'origine espagnole.
Votre nom n'est donc pas un pseudonyme, il est simplement votre vrai nom un petit peu raccourci.
La moitié.
Prénom, c'est bien Louis.
Louis.
Date et lieu de naissance.
Le 31 juillet 1914, à Courbevoie.
Aucune coquetterie, voyez-vous.
Non, pas du tout.
Nationalité française. Profession. Alors là, je suis un petit peu embarrassé, car naturellement, je sais, et tout le monde sait que vous êtes comédien, mais vous êtes plus que comédien. Vous êtes aussi mime, vous êtes aussi clown. Alors, quelle profession
de Ah, c'est le comédien, c'est l'art du comédien.
En général.
Le comédien doit savoir tout faire.
Bon, alors, signe.
Enfin, beaucoup de choses, doit savoir faire beaucoup de choses.
Signe particulier.
Quelques tics, si vous voulez.
Quelques tics, une certaine manière de se remonter la lèvre en cadence, une certaine manière de cligner des yeux.
Moi, je me prends pour un marbre, alors, vous savez.
Oui.
Alors, moi, je ne me vois pas faire des tics.
Et puis une certaine façon de parler avec l'accent gendarme aussi.
En train de parler comme ça. J'aime bien parler comme ça.
Passons à la dernière.
C'est pas sérieux. Tout ce qu'on dit n'est pas sérieux.
La dernière rubrique de cette carte d'identité, titres honorifiques. Alors là, il s'agit bien sûr des pièces et des films.
Écoutez, j'ai la grosse valse qui me plaît beaucoup. J'ai joué avec beaucoup de plaisir Oscar de Claude Magnier. La grosse valse, c'est de Robert Diret, de Colette Brosset, bien sûr. Et puis, comment ça s'appelle, le Diable des Dix Commandements, de Duvivier.
Du côté cinéma, oui.
Le Gentleman d'Epsom avec Gabin, de Grangier.
Oui.
Puis je ne sais pas, il y en a d'autres.
Ce sont là les principaux et en tout cas les plus récents.
Oui, ce sont les plus récents, c'est ça.
Bon, alors attaquons maintenant la lettre, la première lettre que nous avons sélectionnée pour vous demander d'y répondre. Il s'agit de la lettre de M. Gracien, un de vos correspondants de Nancy. M. Gracien vous dit ceci: comment expliquez-vous, Louis de Funès, votre réussite? Vous surprend-elle ou bien la considérez-vous comme l'aboutissement normal, logique, juste de tous vos efforts passés?
Ma réussite me surprend quand même un peu. Elle est le résultat quand même d'un travail acharné, et de petite montée par petite montée, d'année en année. Au début, de deux ans en deux ans, je monte des marches de deux mois en deux mois, trois mois en trois mois.
C'est ça, vous n'avez pas été catapulté
non, pas du tout.
À la gloire, vous avez gravi les échelons.
C'était très très long.
Petit à petit.
Très long, avec des années de vache maigre, très long. Il y a eu 7 ans. J'en ai 7 ans. Là.
Il semble que ce soit la bonne méthode, d'ailleurs, de monter doucement dans cette profession, ne croyez-vous pas?
Je crois, oui. C'est... Oui, pourtant, regardez, il y a des montées, il faut savoir s'y tenir, mais enfin, il y a des montées qui sont fulgurantes aussi. Regardez, je crois qu'il a une montée fulgurante, comme ça, Gérard Philippe a une montée fulgurante.
Oui, ça, c'est vraiment l'exception.
Oui, oui. Regardez, Bardot est montée fulgurante, et elle est très bonne comédienne, elle est très jolie, elle est très bonne comédienne, elle se tient très bien, c'est très bien.
Il y a eu aussi Tino Rossi, jadis, qui a eu une montée
fulgurante
et qui s'est maintenue.
Ouais, tiens.
Car vous savez que Tino Rossi, ça va me permettre d'offrir
d'ailleurs...
Je l'ai
vu l'autre jour à la Grosse Valse, il est très gentil, il a beaucoup ri, il s'est bien amusé.
Ça va me permettre d'offrir un disque à M. Gracien, un disque de Tino Rossi. Tino Rossi ne redoute rien, absolument rien, des tours de la mode, et il se met au twist, ça y est, c'est décidé, c'est fait. C'est même enregistré dans la vinyle de son dernier Super 45 Tours. Tino Rossi danse le twist, seulement comme il s'appelle Tino Rossi, son twist à lui, bien sûr, c'est le twist à Napoli.
Danser tout l'été à Napoli. Ce nouveau succès que chantait sans arrêt tout Napoli. Il faisait le tour nuit et jour des faubourgs de Napoli. Et c'est grâce à lui que naquit pour toujours notre amour. Napoli, 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 on perdait la tête. Napoli, 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 sur cette terre de fête. Napoli, 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 qu'à présent répète. Napoli, 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 les oiseaux du ciel. Je me rappelle cette ruelle faisant la belle, coiffée de bleu. Ou sur ta bouche, un peu farouche, j'ai bu la source des jours heureux. Loin de tes rivages. Napoli, 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 j'emporte un visage. Napoli, 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 et dans mes bagages. Napoli, 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 l'air que tu chantais.
Voyez-vous, Tino Rossi s'inspirant de Johnny Hallyday, c'est quelque chose d'assez curieux tout de même.
C'est joli.
Ça vous plaît?
Ah, beaucoup.
D'ailleurs, il faut dire que la carrière de Tino Rossi en souhaite est un exemple.
Un exemple
extraordinaire de longévité et de constance.
Ah oui.
Mais ce n'est pas pour parler de Tino Rossi que nous sommes ici, mais bien plutôt pour parler de vous et pour parler aussi de Madame Durot. Madame Durot de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qui vous a écrit une très longue lettre dont j'ai extrait cette phrase qui me semble intéressante par la question qu'elle pose. Êtes-vous comique par nature, Louis de Funès, ou bien par composition, par effort, par travail?
Non, je crois par nature. On a une nature comique, on est comique.
C'est-à-dire que depuis...
Le verbe naître, on est comique, on a le don comique, on ne l'a pas. Qu'il faut développer, il faut travailler après, mais on a le don comique.
Depuis très longtemps, vous êtes comique.
Ah oui, à l'école, tout ça, on me faisait coller quelques petites 100 lignes, 200 lignes, 300 lignes, toujours pour des choses de comique.
Parce que vous faisiez rire les autres.
Bien sûr. À l'insu des professeurs, tout ça.
Mais ça, c'est un choc en retour que vous avez reçu des autres, de votre entourage, de vos amis, de vos professeurs, de vos maîtres. Mais est-ce que par vous-même, vous aviez l'impression, par exemple, en faisant votre toilette le matin, est-ce que vous avez l'impression, devant la glace, que vous aviez quelque chose d'amusant?
Ah, pas du tout. Oh non, non, non. C'est dans le commerce avec autrui, dans les rapports avec autrui, que je suis comique. Enfin, je crois. Mais chez moi, pas du tout.
Chez moi,
je travaille, j'ai des idées comiques. Je me dis, tiens, est-ce que si je faisais ça, ce serait drôle. Maintenant, dans mon métier.
Oui.
L'autre fois, je devais me dire la même chose pour faire rire les copains. Je préparais des petites blagues.
Quel genre de blagues? Est-ce que vous aviez déjà votre série de petites grimaces et de petits tics?
Oh, sûrement. Ça, je ne me rappelle pas très bien, mais enfin, je suis sûrement. J'ai fait mes débuts d'ailleurs sur scène, c'est au collège de Coulommiers, au cinquantenaire, c'était en 1926. Je faisais un petit garçon qui avait un sabre de bois, qui voulait se faire engager dans l'armée d'Henri IV.
Ah oui.
Ça s'appelait le Royal Dindon. Je chantais, j'allais à l'avant-scène, je chantais, on m'a donné un mousqueton qui pesait aussi lourd que moi, j'arrivais pas à le tenir.
Vous étiez en costume
d'époque? J'avais 10 ans et demi, je crois, à l'époque.
Ça devait être charmant, ça.
Ouais, ouais.
Eh bien, Madame Durand, vous voilà renseignée. Nous vous offrons maintenant un air du film Blanche-Neige, un air qui est
actuel. Ah, c'était joli, ça.
Alors voilà, Caravelli, qui joue l'un des airs principaux de ce film, sifflé en travaillant. Siffler en travaillant,
ah oui,
avec l'orchestre Caravelli. Est-ce que vous sifflotez, vous, quelquefois, lorsque vous travaillez?
Parce non, que je chantonne.
En dehors de la scène,
je chantonne.
Vous chantonnez?
Je chantonne. C'est mon habitude de piano, je chante en m'imaginant les harmonies de la main gauche. Et alors, j'imagine toutes mes harmonies quand je me promène dans les magasins. J'aime beaucoup, mes balades favorites sont les magasins.
Ah oui, vous aimez le shopping, comme on dit maintenant. Nous arrivons maintenant à la lettre de M. Demarque, de Lille, qui vous pose cette question. Louis de Funès, il semble que, en examinant les rôles que vous avez incarnés jusqu'à maintenant, sur scène ou à l'écran, vous ayez un goût prononcé pour le rire sain. Vous n'aimez pas la gaudriole facile, vous n'aimez pas le spectacle un peu scabreux, tant en vogue de nos jours.
Ce que je voudrais arriver à faire, c'est à faire un spectacle de famille, et pas du tout un spectacle de patronage, bien loin. Un spectacle de famille, et tout simplement, il y a Charlot qui était avant nous qui a fait toujours ça. Lester Keaton qui a toujours fait ça, Laurel et Hardy qui ont toujours fait ça, les plus grands.
C'est vrai.
D'abord, c'est très habile parce que ça rapporte beaucoup plus de recettes parce que les gens viennent ensemble, viennent à 15, ils viennent venir à 2.
C'est vrai d'ailleurs.
Non, mais c'est pas le but. Mais oh, c'est un peu le but aussi. Mais j'aime bien jouer des choses saines, j'aime pas des histoires de mari trompé, moi ça m'énerve. Je trouve que c'est la facilité. Le gangster, c'est de la facilité d'écrire ça.
Sûrement. Ah, oui, eh bien, sûr. Vous avez répondu parfaitement à M. Demarque et vous lui offrez maintenant, vous lui offrez un disque choisi, trié sur le volet. Vous lui offrez un disque de l'opérette, ou plutôt la comédie musicale que
oui,
vous jouez en ce
moment.
Un show, on ne sait pas exactement comment l'appeler, on est indécis.
Spectacle.
Spectacle musical qui s'appelle La Grosse Valse et c'est l'un des airs qui s'appelle Les Godasses que chante, je crois, Robert Day.
Et je le reprends à la fin.
Moi je suis bien dans mes godasses, dans mes godasses je suis comme chez moi. Moi je suis bien dans mes godasses, dans mes godasses je suis comme un roi. Je les quitte jamais moi mes godasses, sans mes godasses où ce que j'irai. Et puis mettez-vous à leur place, peut-être que sans moi, elle s'ennuierait. Quand je me présente devant la douane, ceux de la douane ont beau mes pieds, ils ne savent pas que dans mes godasses, il n'y a pas que mes pieds. Vous pensez peut-être de mes godasses, ça tient de la place, c'est pas discret. Oui, mais quand le Père Noël y passe, j'ai plein de place pour plein de jouets. Dans mes godasses qui sont de taille, quand le travail est terminé, moi les doigts de pied en éventail, je fais la grasse matinée. Moi les doigts de pied en éventail, je fais la grasse matinée.
Si par malheur il perd sa place, si on le remplace, je serai pas inquiet. Il pourra grâce à ses godasses devenir cireur de parquet.
Quand je me balade dans mes godasses,
quand il se balade dans ses godasses,
dans mes godasses le monde est à moi,
dans ses godasses le monde est à lui.
Faut dire qu'un pas dans mes godasses,
faut dire qu'un pas dans ses godasses,
pour un douanier ça en fait trois.
Ça en fait trois.
Venez avec moi dans mes godasses, il y a de l'espace pour vous et moi. Nous ferons le tour de la place, moi avec vous, vous avec moi. Nous ferons le tour de la place,
moi avec vous,
vous avec moi.
Nous ferons le tour de la place, moi avec vous, vous avec moi.
Nous savons désormais que vous êtes bien dans vos godasses, comme
ah
vous
oui.
dites, et que vous en avez plusieurs paires, car c'est pour vous le signe de l'homme qui a réussi.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai. Je voudrais savoir d'où vient cet accent que vous employez dans vos rôles. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à votre naissance, à votre lieu de naissance?
Non, pas du tout. C'est un accent qu'on a pris comme ce qu'on a pris comme ça dans le temps avec des amis. On avait, quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée, on parle toujours. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On parle tout ça, c'est rien du tout, c'est un accent de rien.
C'est l'accent gendarme un peu.
Oui, l'accent de guignol. Pas de guignol, mais enfin du gendarme, de guignol. C'est un accent que tout le monde a pris. Vous-même avez dû parler comme ça.
C'est le ton de la contravention.
Alors, quoi, qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui, c'est l'accent qu'on prête aux gendarmes ou aux agents.
On ajoute nonobstant et à partir
oui,
de dorénavant, c'est ça.
C'est ça. Dites-vous.
Enfin, maintenant, on dira que c'est l'accent douanier depuis La Grosse Valse. Nous arrivons à la lettre de Mademoiselle Létang, Mademoiselle Yvonne Létang, qui est une étudiante de Grenoble. Vous aimez Grenoble?
Ah oui, beaucoup.
Et puis
j'ai
vous
joué
avez...
là-bas, j'ai joué Oscar à Grenoble.
Ah oui.
On a eu beaucoup de succès, mais les Grenoblois étaient très gentils. Puis c'est surtout une ville magnifique, avec ses montagnes qui l'entourent, c'est très, très, très joli.
Et puis de plus, vous avez un fils étudiant, vous-même.
Ah oui.
Donc vous avez toutes les raisons d'être aimable et compréhensif avec Mademoiselle
oui.
Létang,
oui.
qui vous pose une question gigantesque.
Ah bon?
Une question qui n'a pas encore été résolue depuis qu'on écrit sur
oh,
ce
bah,
sujet.
Non.
Et on a écrit des
Pourquoi
tomes et des tomes. Et
de
très grands philosophes, de très grands écrivains se sont penchés sur le problème. Cette question, elle tient en quelques mots. Qu'est-ce que le rire?
Oh, le rire,
qu'est-ce que le rire? Pour vous, en tout cas. dans votre optique à vous, qu'est-ce exactement?
Ben, c'est une médecine pour moi, le rire. C'est une médecine qui fait beaucoup de bien aux gens. Je n'ai jamais vu, on dit mourir de rire, je n'ai jamais vu personne mourir de rire. C'est une médecine, une très grande médecine, et pour moi aussi, pour tout le monde. Ça fait beaucoup de bien de rire. Les journaux ne prêtent pas beaucoup à rire en ce moment, on en a très besoin.
Vous pensez donc que c'est une médication?
Mais j'ai lu le petit livre de Bergson sur le rire, j'en ai pas, on n'en sait pas plus à la fin. C'est très intéressant, mais on n'en sait pas plus.
Au fond, vous connaissez les secrets du rire, vous savez le déclencher.
Oui, mais je connais les secrets, mais c'est en soi. C'est le don comique qui fait que vous êtes drôle. Par exemple, Fernand Reynaud a sa manière de faire rire, Bourville a sa manière de faire rire. Et je trouve bien imprudent les metteurs en scène au cinéma qui vous pilotent, qui vous disent, un monsieur qui ne vous connaît pas, vous dit, bon, maintenant je vais vous diriger. Vous allez me faire ça, de quel droit? Puisque ce n'est pas du tout notre manière. Il faut nous laisser filer dans notre manière. Et nous corriger, bien sûr. On a besoin d'être corrigé.
Vous êtes un petit peu des apprentis sorciers. Au fond, vous maniez une chose que vous ne connaissez pas très bien. Vous en connaissez les effets. Vous en connaissez certaines des ficelles, même, peut-on dire.
Oui, oui.
Mais vous ne savez pas le définir de manière précise.
Ça, les ficelles, vous perdiez l'apéritif, là, au studio, ça y est. Ça, c'est l'apéritif 40, là.
Sûrement.
Mais c'est vrai, une fois, les machinistes au studio, ils ont suspendu, il y avait un gars, ils l'ont suspendu par les pieds, il ne voulait pas payer. Un jour, deux jours, trois jours, et après, ils l'ont suspendu par les pieds, et il a demandé qu'on serve la table et qu'on serve l'apéritif.
Bon, bah écoutez, alors moi, je n'irai pas, je ne me buterai pas, je vous le promets, je vous offrirai peut-être pas l'apéritif, mais le café crème à cette heure-ci.
Ah oui, 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 hein, c'est vrai.
Et alors, je reviens à la lettre de Mademoiselle Létang, car elle se poursuit par une autre question qui concerne également le rire, une question qui précise un petit peu la première.
Oui, oui.
Elle vous dit, y a-t-il un rire universel ou bien le rire est-il le signe particulier d'une époque, d'une région, d'un pays?
Il y a tous ces deux-là, il y a tous ces trois-là, tous ces quatre-là, il y a tous les rires. Il y a un rire universel, par exemple, Charlot l'a prouvé dans ses films, il a fait rire tout le monde entier.
C'est le rire sans texte.
C'est ce que vous voulez dire.
C'est le rire sans texte.
Bah oui, on n'a pas besoin de... C'est tout que vous avez... vous parlez la langue d'un pays, vous faites rire que cet entourage-là. Et puis, il y a les mille et un petits rires qu'il y a dans le métro, dans l'autobus, dans la rue. Les mille et un rires, c'est très difficile.
Il y a des rires régionaux, des rires
mondiaux. Il y a des rires
mondiaux.
Il y a des rires qui vous échappent, il y a des rires que vous retenez, je ne sais pas.
À votre avis, votre rire...
J'essaie de faire un panachage de rires, de tous ces rires-là. C'est ça, oui, c'est exact. J'essaie de panacher, de provoquer tous ces rires-là.
Quel est l'acteur comique que vous admirez le plus parmi tous ceux qui ont existé dans le passé?
Oh, mais il y en a beaucoup, vous savez. Voilà.
Quel est celui qui vous a servi
c'est
un petit peu de
normand,
modèle?
Parce que j'ai ri énormément et tout. Puis avec Charlot, bien sûr.
C'est Charlot que vous mettez en tête?
Oh non, oui, bien sûr. Mais parce que j'ai ri énormément avec Laurel et Hardy. Énormément avec Buster Keaton, avec Bourville, avec Fernand Reynaud, j'ai ri énormément. Avec Jean-Richard, j'ai ri énormément. Il n'y a pas de... Un rire au maître, ça n'existe pas. J'ai ri autant avec les uns qu'avec les autres.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous ont apporté, les uns et les autres, quelque chose, une petite parcelle de votre comique actuel?
Pas les comiques modernes, parce que c'est basé un peu... Pas les comiques modernes, mais Charlot, oui. Laurel et Hardy, oui, parce que c'était avant tout de l'image.
Le comique de geste.
Mais c'était de l'image. L'œil n'était pas sollicité, alors on fait plus attention à l'œil. Et chez moi, j'ai un petit cinéma de 8 mm, et j'ai acheté les films de Charlot, Charlot patine, et tout ça m'est très utile. Parce qu'il y a le rythme. Là, il a un rythme à cette époque. Et les gens disent parce que c'était tourné à 18 images, pensez-vous. Parce que j'ai vu des autres films tournés à 18 images et qui trouvent le moyen d'être lent. Où on s'embête royalement. Et des films comiques, c'est lent. C'est lent, et c'est pas parce qu'il court que c'est drôle, c'est pas du tout. Parce qu'il avait déjà le rythme au cinéma qu'il a toujours maintenant, d'ailleurs. Maintenant, on tourne à 24 images, et il a le même rythme. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement, je n'avais pas vu. J'ai vu Limelight.
Oui.
Bon, il y a des moments où je me suis un peu embêté. Mais le numéro sensationnel de clown qu'il fait avec Buster Keaton est formidable. C'est une autre classe. Et vous vous rappelez, vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu.
Il a son pied qui sort et puis qu'il lâche. Ah, j'ai trouvé ça, c'est supérieur.
C'est la trouvaille, ça.
Mais c'est une énorme chose. C'est ce que je voudrais essayer de trouver. On essaye avec Robert, on essaye. On marche sur les traces, on ne désespère pas.
Vous choisissez bien votre modèle, en tout cas. Et Mademoiselle Létang doit être très satisfaite de votre réponse.
C'est bien. Rire universel, Charles.
Pour cette demoiselle, nous allons, si vous voulez bien, choisir un disque drôle. Ah oui. Un disque drôle chanté par un monsieur qui n'est pas spécialement drôle. D'ailleurs, vous allez voir que ce n'est pas chanté.
Je connais le disque, il est formidable.
C'est Yves Montand qui, dans son récital, a eu l'excellente idée d'inclure un petit, on peut dire que c'est un petit sketch téléphonique qui s'intitule Le Télégramme.
Quand on est amoureux, mais vraiment, hein, vraiment amoureux, eh bien, il y a des moments où c'est tout de suite qu'on a envie de lui faire savoir combien on l'aime, combien elle vous manque. Surtout si c'est le début d'une vraie histoire d'amour et qu'elle n'habite pas la même ville que vous. Alors, il y a deux solutions. Le téléphone ou le télégramme? Le téléphone, bien sûr. Mais quoi de plus simple qu'un télégramme qu'elle pourra lire, garder, relire, apprendre par cœur, porter sur elle, enfin. Oui, c'est une très très belle invention quand on est amoureux. Voici le télégramme.
Télégramme téléphoné 351, j'écoute.
Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît.
Pour la France?
Oui, pour la France.
Quel numéro êtes-vous?
Odéon 2745.
45. Adressé à...
Mademoiselle Colette Mercier.
Colette Mercier. Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Eugène Raoul.
Oui.
Adresse.
23 Square Lamartine, Besançon.
Département.
Le Doubs, je crois.
Besançon Doubs.
Eh oui, c'est le Doubs.
Le texte.
Mon chéri.
Comment?
Mon chéri.
Mon chéri ou ma chérie?
Non, mon chéri. Ah,
mon chéri. Comme une entête de lettres, alors.
Oui, si vous voulez. Mon chéri.
Mon chéri, deux fois?
Non, une fois, mademoiselle.
Ensuite?
J'entends le vent, je t'aime.
J'entends le vent, je t'aime.
Ensuite? La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place et
Depuis que tu es parti, mais la quoi?
La statue.
Comme une statue?
Oui, comme une statue.
La statue est toujours à la même place, c'est ça?
Oui, c'est ça, mademoiselle. Eugène Su me regarde, je t'aime.
Eugène, comme le prénom?
Oui.
Ensuite?
Su?
Comment?
Su, Eugène, Su.
Éplé.
Est-ce comme Suzanne, U comme...
Comme Ursule.
Oui, et E comme Eugène.
Su.
Oui, mademoiselle, Eugène, Su, c'est...
Ensuite?
Me regarde, je t'aime.
Je t'aime.
Je pense à toi.
Je pense à toi.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Je t'aime, je t'aime. Alors, trois fois je t'aime.
Oui. Paul.
C'est la signature?
Oui, mademoiselle.
Je vous relis. S'il vous êtes Odéon 2745, adressé à Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Eugène Raoul. 23 Square Lamartine, Besançon Doubs. Mon chéri, j'entends le vent, je t'aime. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène, tu me regardes. Je t'aime, je pense à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, signé Paul.
Bien, il est possible, le trouvez-vous pas, Louis de Funès, que Yves Montand vienne de répondre précisément avec son sketch téléphonique, le télégramme, à la question « Qu'est-ce que le rire ?»
Ah oui, oui.
Car on rejoint là, me semble-t-il, et je vous pose à vous la question, on rejoint là peut-être la définition de Bergson qui disait que le rire c'était un hiatus, une sorte de choc entre deux univers totalement distincts.
C'est une rupture. Le rire vient toujours d'une rupture, bien sûr.
Et c'est bien là ce que nous avons. Nous avons l'univers de la petite standardiste qui se moquait perdument du texte du télégramme et nous avons le monsieur amoureux qui, lui, ne pense qu'à l'objet de son amour.
Ah oui.
Deux univers totalement différents, distincts. Oui. Deux planètes, pourrait-on dire.
Mais vous savez, si on pense à ça en scène, on ne peut plus jouer, même pour l'écrire, on ne peut plus.
Non, d'ailleurs, je ne crois pas que donner une définition du rire soit donner une recette pour fabriquer du rire, car il n'y a rien à faire, il faut le sentir, il faut qu'il y ait un
jaillissement. On écrit quelque chose qui nous fait rire et puis qui fait rire le public aussi. Et on sent dire que ça va faire rire, avec Robert Derry, avec Colette Brosset, quand on travaille quelque chose. Mais on ne pense pas à une rupture, tout ça. Elle nous vient automatiquement, les ruptures.
Absolument. C'est un réflexe automatique et ce n'est qu'après coup que l'on peut étudier pourquoi. Monsieur,
quelle heure qu'il est, on y répond, c'est vendredi. Voilà, c'est une rupture.
Voilà.
C'est ça.
Une question préliminaire, est-ce que ce n'est pas trop dur pour vous, le dimanche matin, de vous lever si tôt? Vous êtes un homme matinal, d'habitude?
Oui, j'aime bien être matinal. Malgré mon habitude de me coucher tard, ça m'embête un peu dans ma vie, mais j'ai toujours gardé l'habitude de me lever à 9h. Si je pouvais me lever à 8h.
Ah oui.
À 9h, je suis réveillé. Ça, c'est très embêtant parce que ça me fatigue. Alors, je suis obligé de reprendre une petite dose de sommeil vers 6h avant d'aller au théâtre.
Alors, ce qui est gênant, c'est que nous, on vous fait lever au moins à
7h30. Bah oui. Bah oui.
Enfin, c'est pour la bonne cause. Nous allons en avoir la preuve immédiatement. Thank you.
Bah, tout à l'heure, à 3h, je vais encore entendre cet air-là sur scène.
Oui, ça vous poursuit.
De l'orchestre Calvi. Oui.
La fameuse grosse valse.
Ah, oui.
Eh bien, c'est une autre valse que nous propose M. Jean-Pierre Salhomme de Paris. C'est une valse philosophique, car il vous pose des questions qui correspondent mal à l'heure matinale, d'ailleurs.
Oh là là.
Des questions assez profondes. Avez-vous, Louis de Finesse, avez-vous un regret dans l'existence, de ces sortes de désirs rentrés que l'on porte comme un fardeau au fond de soi-même et qui enlèvent toute saveur au désir comblé?
Ah non, pas du tout.
Non, vous n'avez pas de désir rentré?
Ah, pas du tout.
Vous êtes un homme satisfait de la vie?
Ah oui, je crois que je suis un homme heureux, je crois.
Vous êtes un homme heureux?
Ah oui, je crois, je suis certain même.
Vous êtes certain?
Ah oui, oui, certain.
Vous savez que c'est très rare d'entendre quelqu'un dire ça.
Ah mais c'est vrai, puis je le dis souvent, je me le pense souvent. Je suis des fois un peu coléreux, enfin, des fois un petit peu en colère, mais enfin...
Ah oui, vous êtes coléreux?
Ah non, mais rien, non. Non, je le fuis, enfin... Je crois que petite colère comme tout un chacun, c'est dans la voiture, dans les stationnements, dans les embouteillages, c'est tout.
Vous vous vociférez un peu contre les automobilistes, oui. Contre la circulation en général, contre oui. Les représentants de l'ordre.
Je me suis calmé maintenant, je fais ça, je me croise les bras, j'attends.
C'est-à-dire que vous êtes un calme par raisonnement?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Je suis devenu calme.
Vous n'êtes pas tout enfin, à fait raisonnable,
je
vous êtes raisonné.
Je range pas mon frein, je suis devenu calme et je crois que je le suis calme maintenant, je deviens calme. Il faut le devenir, mes enfants, parce que sinon.
Et vous êtes heureux, ça me paraît extraordinaire.
Oui, c'est vrai, c'est exact.
Vous savez qu'il y a très peu de gens qui peuvent dire ça.
Ah,
est-ce
oui.
que vous avez conscience parce que, de souvent, la particularité?
Mais parce que souvent, les gens ne se contentent pas. De... Je me dis pas, je suis content de ce que j'ai énormément. J'ai énormément. Mais je vois des gens qui ont comme moi, et ça ne leur suffit pas. Il leur faut la taille au-dessus, et une fois qu'ils ont la taille au-dessus, il leur faut la taille au-dessus. Ils ne sont jamais contents, ils sont jaloux des gens qui ont une situation plus haute, et je ne sais pas pourquoi.
Eh bien, c'est
moi, je suis heureux, puis je suis très heureux, et puis j'ai tout ce qu'il faut pour l'être.
C'est la plus belle réponse, certainement, que vous puissiez faire à la lettre de M. Jean-Pierre Salhomme, de Paris. Et maintenant, vous allez lui offrir un disque.
Ah oui.
Voulez-vous que ce soit le dernier disque de Lynn Renaud, par
exemple ? Avec plaisir.
Une chanson intitulée « Un jour, tu me reviendras », qui est également une chanson de bonheur, vous allez voir.
Très joli.
Je sais que notre amour est le plus fort et j'attends ton retour quand tout s'endort. Le vent qui souffle le soir, le vent m'apporte l'espoir. Son chant m'éveille la nuit, berçant mes rêves enfouis. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. La porte s'ouvrira et le bonheur enfin refleurira dans nos deux cœurs. Un jour, tu me reviendras, blessé par d'autres que moi. Mon cœur te pardonnera le jour où tu reviendras, le jour où tu reviendras.
C'est bien en effet une chanson de bonheur, puisque c'est une chanson de retour, une chanson de retrouvailles que nous proposait là Lynn Renaud. Donc vous, pas de questions, pas de problème, Louis de Funès, vous êtes heureux.
Et je crois qu'en plus j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, de cette chance, on appelle la chance des acteurs, c'est pas ça, c'est la chance...
La bonne étoile.
Oui, la bonne étoile, mais d'échapper, pas d'avoir les grosses affaires, c'est pas ça la chance. La chance dans la vie, c'est la chance d'être en bonne santé, je crois que c'est ça.
C'est-à-dire que vous avez échappé au danger aussi.
C'est la continuité de l'émission de Lalou et tout ça, c'est la continuité de la chance d'être en bonne santé. J'ai échappé, par exemple, j'arrivais toujours avant un bombardement ou après. Je partais en voiture et je voyais des voitures qui étaient calcinées, mais c'était fumées encore, c'était il y a 10 minutes. Et moi, je passais jamais, j'ai jamais rien vu, ni les avions, rien.
Je crois
mais
que...
ça passait une seconde avant, comme dans les films de Charlot, vous savez, ça passait...
Cette chance-là, cette bonne étoile, presque tout le monde l'a. Seulement, beaucoup de gens ne la voient pas, beaucoup de gens n'ont pas cette conscience de
leur
chance.
Il y a des gens qui ont de la malchance, quand même.
Il y a aussi des gens qui ont de la malchance, mais le plus grand nombre n'ont pas la conscience de leur chance.
Ah, c'est exact.
Et je crois que c'est ça, votre secret, en tout cas, votre définition du bonheur, c'est plutôt ça.
Mmh. Et mon secret, moi, mon grand professeur de bonheur, c'est mon jardin.
Ah oui.
Tout ce qui pousse dans mon jardin, c'est l'école de la ville. Ça prend la patience, ça prend la beauté, ça prend mille choses. C'est le jardin.
Comment marchent les poireaux en ce moment ?
Ils sont gelés.
Ils sont gelés. Nous arrivons à la lettre de Madame Irène Devergne,
oui,
qui est une de vos admiratrices parisiennes, mmh, et qui vous pose une question d'un tout autre genre. Elle vous dit, Louis de Funès, lorsque vous êtes sur scène, vous n'êtes plus, semble-t-il, exactement sur terre. Et cela pose évidemment le problème de l'état second du comédien, nous entendons du bon comédien,
oui, oui,
qui sort véritablement de sa carcasse, qui devient un autre être lorsqu'il joue la comédie devant un public.
Est-ce que vous devient le personnage, le soir dans la grosse valse, je deviens le douanier Roussel.
Vous êtes vraiment ce douanier-là?
Ah bah,
vous n'êtes plus de Funès, vous êtes...
De Funès surveille le douanier Roussel quand même du coin de l'œil. Comme disait Diderot, on faisait des doubles. Il y a le de Funès qui est là en coulisses en train de surveiller l'autre, en train de tirer les marionnettes de l'autre.
Il y en a un qui regarde l'autre.
Oui, mais enfin très peu. C'est le douanier Roussel qui joue et qui a j'ai l'oreille fixée sur les réactions du public, comme si je conduisais un avion supersonique, avec toutes les attentions que ça mérite.
Car ce public, vous en avez besoin, il fait partie. Il fait partie de votre décor.
Ah oui, un rire du public, ça me déclenche c'est un encouragement qui, cet encouragement peut me déclencher une idée, une trouvaille. Moi, je trouve beaucoup au public, j'améliore beaucoup un rôle au public. Je l'établis presque entièrement au public.
Vous ne pouvez pas jouer devant une salle à moitié pleine?
Si, ça ne me gêne pas.
Ça ne vous
gêne
pas.
Le public peut être bon s'il rit. S'ils sont trois dans la salle et qu'il rit, c'est pareil.
Le public n'est pas une notion de quantité.
Ah non, le public, c'est un. Le public, ah oui, le public, c'est un. C'est une unité, c'est une personne. Un jour, le public est, c'est-à-dire cette personne, c'est-à-dire le public est timide. Un jour, il est enthousiaste. Un jour, il tout saute. Un jour, il a mal à la tête. C'est ça. C'est le public, c'est une personne.
C'est une sorte de personnalité collective.
Oui, c'est un miracle qui se produit chaque soir qui fait que c'est. Ils sont tous. Moi, quand je sais qu'il y a une personne qui m'est un peu antipathique dans la salle, eh bien, je suis sûr que le public sera pareil. Il aura la couleur, cette teinte-là. Alors, il faut le rendre sympathique. C'est tout le travail du comédien. Quand le public est charmant en arrivant, qu'il rit beaucoup, le travail est entièrement facilité. Et c'est qui revient à dire, quand le public est très gentil avec nous au départ, c'est lui qui s'offre une bonne soirée.
Oui, et par contre, lorsqu'il est boudeur, lorsqu'il est
réticent... Il n'est pas boudeur, c'est qu'il est plus difficile, des fois plus difficile, plus timide. Aussi, la timidité se traduit pour nous par un silence, comme la bouderie, on ne sait pas. Je m'étonne qu'ils viennent en boudant. Ils ont payé 2000 francs pour venir contre, ou alors avec des tomates.
Effectivement, c'est surprenant.
Non. Il vient là pour qu'on le fasse rire. Il vient prendre sa dose de rire. Alors à nous de le faire rire, c'est plus dur. Il y a des jours qui sont plus difficiles.
Eh bien, nous remercions Madame Irène Devergne et nous lui proposons maintenant un petit air de jazz avec Claude Bolling.
Ah, j'aime beaucoup Claude Bolling.
Un confrère, parce que vous fûtes pianiste,
oui, oui,
vous-même.
Il débutait dans le temps de Bolling, il imitait Fats Waller. Et moi aussi, on a tous imité Fats Waller.
Mais vous allez voir.
Il a continué sa route parce qu'il est un très grand pianiste.
Il nous donne ici un très bon exemple de ragtime traité de manière moderne,
oui,
avec un morceau intitulé Perfect Rag. Thank you. Claude Bolling dans Perfect Ride. Tout à fait la musique des années 20, le style Chicago.
Oui. Oui, oui.
Que vous aimez bien, semble-t-il.
Ben, je pense bien, j'aime bien le style de... C'était le style de Fats Waller, de James P. Johnson et tant d'autres.
Vous êtes un grand spécialiste.
Ah, ben, j'aime bien, ben, je pense bien, j'adore ça.
Vous continuez d'en jouer?
Non. Non, malheureusement, parce que j'ai joué dans des boîtes où je jouais 10 heures à 12 heures de piano, vous savez, ils m'en ont un peu dégoûté. Mais enfin, j'ai gardé ça dans les mains et dans l'esprit, surtout. Et à l'occasion, peut-être dans une pièce ou dans un autre show, je jouais du piano, je ne sais pas.
Mais dis-moi, lorsque vous étiez pianiste de bar, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années
Il y a 15 ans, par là.
15 ans, oui. Est-ce que vous aviez déjà cette nature comique et est-ce que cela se sentait dans le public?
Ah oui, dans la façon de jouer. Oui, je jouais du piano, puis je racontais des histoires tout en jouant le piano. On faisait un 4 mains, je me souviens, avec un ami à moi qui est devenu depuis inspecteur de police.
Ah, ça n'a rien de spécialement comique.
À la brigade criminelle. Mais oui, il jouait très bien les pianos. Alors, il faisait la main gauche et moi, je faisais la main droite. On faisait le Tiger Rag.
En burlesque.
Non, qui est très rapide. Et alors, des clients venaient, c'était une coutume, et ils prenaient le piano, à 3 d'un côté, 3 de l'autre, un piano à queue, ils le trimbalaient dans tout l'établissement. Et on jouait sans une fausse note.
Ah, on vous soulevait vous-même? Oui. On soulevait les pianistes?
Non, les pianistes, je marchais, moi.
Ah, vous marchiez?
Et, alors, et ils soulevaient le piano, et alors ils trimbalaient le piano à toute vitesse. Alors, et je jouais, et vous savez, c'est aussi vite que ça, c'est rapide. Et moi, je faisais pas une fausse note. Et à 4 mains, alors on cavalait, ils nous tournaient le piano dans l'autre sens, on courait autour.
C'est un exercice de cirque, ça.
Ouais, c'est ça, ben oui. Regardez ça, ça commençait déjà.
Voici, Louis de Funès, la lettre que vous adresse Monsieur Ksanowski, Cyprien Ksanowski, c'est un nom assez difficile à prononcer, qui habite Bordeaux. Mais rassurez-vous, sa lettre est écrite dans un français impeccable. Mm-hmm. Ils vous disent, monsieur, vos qualités, nous les connaissons, bien sûr. En tout cas, nous connaissons celles qui sont les plus apparentes. Nous pensons que vous êtes un homme gentil, bon, certainement, car nous lisons une grande humanité dans votre regard. Mm-hmm. C'est vrai, d'ailleurs, que vous avez un regard doux.
Ah oui, mais je crois que je suis gentil.
Regardez-moi dans les yeux.
Moi, je crois que je suis gentil.
Des yeux très gentils.
Bah, je crois qu'on a tous un désir de gentillesse, enfin, je crois.
Mais alors, ce monsieur ajoute plus loin, et c'est là où il devient un petit peu perfide, vous allez voir. C'est le coup de pied de l'âne. Mais vos défauts, Louis de Funès, vos travers les plus gênants, vous devez bien en avoir, des défauts qui vous gênent vous et qui gênent peut-être aussi les autres.
Bah, c'est la mauvaise humeur.
C'est la mauvaise humeur. C'est votre défaut numéro un.
Elle vient avec de la fatigue, mais je suis de très mauvaise humeur. Mais maintenant, je commence à m'en rendre compte. Alors, je commence à m'isoler. Vous savez, comme avec la scarlatine, je m'isole pendant 2-3 heures. Mais si on m'approche là, je suis de mauvaise humeur.
Vous n'avez pas
ma
à
femme,
prendre
je sais,
avec des pincettes.
Oui, c'est un peu ça. J'ai beaucoup embêté les miens avec ces choses-là. Mais maintenant, je me suis un peu calmé, parce que je me raisonne beaucoup. Et puis, mais c'est là, par exemple, tous les matins, je profite de ma... Parce que je suis un peu... Enfin, moi, je me trouve un petit peu lâche, comme des fois, je n'ose pas dire non. Mais le matin, il n'y a rien à faire. Le matin, je profite pour donner tous mes coups de téléphone pour les contrats ou des choses. Il n'y a rien à faire. Je dis, c'est 50 000 francs et pas en rond de moins. Et puis, donc, je fais tous mes petits coups de téléphone durs. Le matin.
C'est le matin où vous avez le courage.
Ah oui, le matin, il ne faut pas me téléphoner pour me dire... Non, monsieur, j'envoie tout... Je vais bondir tout le monde.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance que cette émission se situe le matin.
Oui, mais...
Car j'ai le vrai Louis de Funès.
Oui, c'est vrai, mais il m'a téléphoné l'après-midi. On m'a téléphoné l'après-midi, François Lénas.
Dites-moi, cette agressivité, ce côté coléreux de votre caractère, prend-il quelquefois le caractère d'une certaine violence? Est-ce que vous avez envie de frapper les gens qui ne vous plaisent pas, par exemple?
Non.
Non?
Oh non. Non, mais enfin, j'aime jouer des rôles dans les rôles que je joue. J'aimerais bien frapper comme ça. J'aime bien casser.
Vous avez quelques gifles rentrées, quelques coups de...
Ah non, pas du tout. Je ne pense pas du tout. Non,
ah non.
Ah non, pas du tout. Mais j'aime bien ce comique-là. J'aimerais bien ce comique où je casse quelque chose. J'aimerais démolir quelque chose sur scène.
Ça fait partie de la panoplie traditionnelle du comique. C'est
le... Oui, mais une façon de le démolir.
C'est le bâton de guignol, disons.
Oui, oui. Mais les gens, ça les soulage aussi, comme eux aussi ont envie de démolir sûrement quelque chose dans la salle. Ça les soulage un peu.
Eh bien, écoutez, nous n'allons rien démolir. Maintenant, nous allons simplement remercier M. Cyprien Ksanowski de Bordeaux et lui offrir un autre disque de jazz, mais alors beaucoup plus récent
oui,
par l'esprit. Il s'agit d'un rock, il s'agit de Limbo Rock. Chanté...
Ça, mes enfants vont l'écouter, alors.
Ah oui, chanté par une grande vedette de ce genre aux États-Unis, Monsieur Chubby Checker, vous connaissez?
Mes filles sont des disques. All around the limbo clock. Now, hey, let's do the limbo rock.
now? How low can you go? First you spread your limbo feet, then you move to limbo beat. Limbo ankle, limbo knee, bend back like a limbo tree. Jack be limbo, Jack be quick, Jack go on the limbo stick. All around the limbo clock, hey, let's do the limbo rock.
La 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 la.
Get yourself a limbo girl, give that chick a limbo whirl. There's a limbo moon above, you will fall in limbo love. Jack be limbo, Jack be quick, Jack go on the limbo stick. All around the limbo clock, hey, let's do the limbo rock. Don't move that limbo bar, you'll be a limbo star. How low can you go?
Limbo Rock, ouais. Par Monsieur Chubby Checker.
Très bien.
Est-ce que vos enfants ont ce disque?
Ah oui, je crois. Oui, 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 je
donc
crois.
Vous le connaissiez déjà.
Je crois qu'ils l'ont. Je crois qu'ils l'ont, oui.
Oui.
À moins que je l'ai entendu à la radio, je ne sais pas.
Nous arrivons à la lettre d'un de vos amis de Versailles, Monsieur Charles Aboustin.
Oui.
Monsieur Charles Aboustin, qui aborde le petit jardin secret.
Ah bon?
Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de votre potager.
Ah oui.
Il s'agit de votre vie privée. Il vous dit, on n'en parle jamais de cette vie privée de Louis de Funès. Est-ce à dire qu'elle est sans histoire, donc pleinement heureuse?
Ah oui. Oui, c'est vrai, sans histoire. Enfin, j'essaie qu'elle soit sans histoire. Avec les histoires d'un Français moyen, enfin, j'espère. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai.
Il n'y a pas de difficultés qui naissent de votre métier. Madame de Funès accepte parfaitement que vous partiez en tournée, que vous acceptez.
Ah non, mais quand je pars en tournée, je l'emmène avec moi.
Ah, vous avez résolu le problème.
Ou alors, si par hasard on partait dans une tournée mais d'Amérique, une grande tournée, j'emmènerais les enfants. Ah, peut-être que le grand resterait là parce qu'il a ses études de médecine, mais j'emmènerais le petit qui suivrait au collège français dont nous serions.
Donc, une vie paisible, une vie familiale normale,
oui,
tranquille.
J'y tiens beaucoup. Oui.
Qui est tout à fait compatible, d'après vous, et vous êtes la preuve avec la vie de comédien.
Je suis un Français moyen, neutre, neutre, neutre. Et c'est ce que je veux rester dans mon métier, d'ailleurs. En scène, je redeviens une chose terrible ou explosive et tout. Mais je suis un monsieur neutre, tout ce qu'il y a de plus neutre. Dans la rue, je tiens à rester neutre et tout ça.
Est-ce que le fait d'être un comique ne gêne pas parfois votre vie familiale? Je m'explique. Est-ce que vos enfants ne mettent pas en doute l'autorité paternelle du fait que leur père s'appelle de Funès et qu'il est drôle?
Oh non, pas du tout.
Non?
Oh non, pas du tout.
Vous avez de l'autorité sur eux quand même?
Ah, beaucoup. Je ne suis pas comique du tout à la maison. Moi.
Ah
je
non?
Suis aussi anormal, non, je suis un père de famille, même sévère.
Vous ne faites rire personne chez vous?
Non, non, non. Ça, c'est normalement, comme tout le monde. Oh non, non, non. Je suis très sévère avec eux.
Tiens, ah, on imagine mal Louis de Funès, père de famille.
Oh, si, c'est sa barde. Quand les notes étaient mauvaises, sa barde, là.
Ah oui?
Ah, ça rigole pas du tout. Oh oui. Et d'ailleurs, les notes, le petit, ça monte en ce moment. Les notes montent, parce que ça a bardé avec moi.
Et lui, ce petit qui est encore en âge...
C'est très sévère.
En âge scolaire, puisqu'il a 13 ans, je crois.
Enfin, j'ai la sévérité qu'il faut pour chaque âge, quoi.
Bien sûr. Oui. Mais est-ce que lui ne souffre pas un petit peu de la position que vous avez dans le métier de comédien? Est-ce qu'à l'école, on ne le charrie pas un peu, comme on dit vulgairement, du
non.
fait que son père est un comique?
Oh non, pas du tout. Non, non, non. Des fois, quand il faisait le comique, on lui disait, tiens, de Funès, c'est le comique. Vous savez, quand il a fait une blague, alors, de Funès, comique, vous faites le comique, c'est tout. Mais maintenant qu'il a des bonnes notes, ça va mieux.
Donc, vie familiale, paisible, tranquille,
ah oui, oui,
pas
oui,
d'histoire.
Très neutre.
Monsieur Aboustin, vous voilà renseigné. Et maintenant, puisque vous avez posé une question fort intéressante, nous allons vous faire un cadeau de choix. Nous allons vous offrir l'un des airs que chante Louis de Funès lui-même dans La Grosse Valse.
Ah oui, je suis entouré d'un comme la douane.
Comme la douane.
Je suis entouré de mes deux subalternes et de mon chef à moi.
C'est une affaire de douanier.
Oui, oui, quatre douaniers sur scène.
Je suis bon comme la douane, comme la douane. Tu es bon, il est bon comme la douane. Je tue, il est bon. Nous sommes bons comme la douane, comme la douane. Vous êtes bon
on est tous comme la douane, on est vraiment bon, qu'on est bon.
Alors attendez, bon, bon, bon comme un potage au vermicelle,
bon comme une tranche de melon,
bon comme la paire de bretelles
qui nous retient notre pantalon. Qu'on est bon,
comme la douane, tu es bon, il est bon, comme la douane, je tue, il est bon, nous sommes bons. Comme la douane, vous êtes bons, on est tous comme la douane,
on est vachement bons,
qu'on est bon.
Oh, bon comme les rognons à la crème,
bon comme celui qui a fait le règlement.
Très bien, chef. Bon comme mon bon chef que j'aime,
bon comme la caresse d'un amant, il est bon.
Il est grand,
c'est un bon grand,
c'est un grand bon,
ce qu'on est bon. Comme la douane, tu es bon, il est bon. Comme la douane, je tue, il est bon, nous sommes bons. Comme la douane, vous êtes bon, on est tous comme la douane, on est vachement bon, ce qu'on est bon.
Comme la lune.
Attendez, bon comme la lune qui là-haut se cache,
bon comme les bœufs qui tirent la charrue,
bon comme un baiser dans ma moustache,
bon comme de l'huile de pois de morue,
c'est pas bon.
Bon comme le bon lait de ma nourrice,
bon comme un bonbon qui colle aux dents,
bon comme mon bon chef que j'aime,
car notre bon chef est bon enfant, ce qu'il est bon.
Comme la douane, tu es bon, il est bon. Comme la douane, je tue, il est bon, nous sommes bons. Comme la douane, vous êtes bons, on est tous comme la douane, on est vachement bons,
ce qu'on est bon,
ce qu'on est grand.
Et vous êtes de la douane le chef le plus bon,
le meilleur,
si tu veux,
si je veux,
tu es bon,
je suis bon.
Non!
Dites-moi, vous ne craignez pas, Louis de Funès, que la prochaine fois que vous aurez une frontière à franchir, les douaniers exercent sur vous quelques petites vengeances?
Je ne crains que ça. Je ne crains que ça. Puis jamais, jamais, jamais nous n'avons eu une visite de douaniers. Jamais. Ils sont sûrement venus, bien sûr. Mais jamais.
Vous n'avez pas lancé d'invitation officielle au service des lois.
C'est de mauvaise augure. Je n'ai pas eu de compliments, rien.
Rien.
Tout le monde vient dans la loge en général. Tiens, c'était très bien. Jamais la douane.
J'ai l'impression qu'il ne faut pas vous amuser à passer le moindre paquet de cigarettes frauduleux. Non.
Mais même, je crois, sans rien passer, j'ai l'impression qu'on nous gardait une petite demi-heure quand même.
Oui. Oh là là. La fouillette.
Oh là là. Et quand je pense que Robert Derry est allé voir le directeur des douanes d'Orly, et qui lui avait dit, oui, monsieur le directeur, on veut faire, c'est tout à l'honneur de la douane. Alors, il a donné tous les détails, et jamais plus on a vu le directeur des douanes.
Oh, oui, là, je crois que vous avez nettement jeté un froid entre vous et cette noble administration.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois les 6 et 13 janvier 1963.
Des bagages sont revenus. J'ai trouvé un mot saugrenu, un pardon froissé sur la table. Tu dors dans ton imperméable. Le voyage a dû être long. Je passe ma main sur ton front. Tu te réveilles, tu souris. Pense à lui. Je dis des mots normaux, j'ai mal. Tu demandes l'heure, c'est normal. Et dans la fumée du café, tu coiffes tes cheveux défaits avec le peigne de tes doigts. se regarde à côté de toi. Sur notre lit, l'ombre d'un pli, tu penses à lui. Je te crois fatigué des hommes, peut-être il faudra que je dors dans la chambre bleue des enfants, entre l'hamster et l'éléphant. Je te regarderai de loin, glissé entre nos deux chagrins, serrant les poings pour que t'oublies que tu penses à lui. Je ferai pour te consoler son bruit de pas dans l'escalier. Je ferai un peu le ménage, je ferai presque plus mon âge. J'épongerai toutes nos dettes, et dans mes nuits de reconquête, tu m'appelleras par son nom si pense à lui. Et tu soulèves le rideau, y a de la buée sur ton dos, y a de la lumière sur ton drap. Je jure que tu me rêveras, j'ai la patience de tes larmes. Je penserai comme une femme, et quand on sera réunis, je penserai à lui.
Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant 1 an sur le site franceculture.fr.